refaire. Elle ignore tout, c'est bien ce qui l'inquiète. Le dos au mur dans l'escalier, elle voudrait retourner dans sa chambre, elle voudrait repartir. Elle reconnaît le rire d'Irène, un rire extraordinaire, haut perché. On l'entend avant de la voir. Son rire teinte au-dessus de la mêlée, flotte parmi les voix basses, et se fraye un chemin, jusqu'aux oreilles amies qui l'invitent à entrer, à participer à la fête. Alexandrine suit le rire et traverse le hall, où sont empilés des ballots, des boîtes, des paniers, d'où dépassent des bouteilles. Elle ouvre la porte et se glisse dans le salon. Personne ne semble remarquer son arrivée. Les conversations se poursuivent, fluides, enjouées. Au centre de la pièce, l'homme au chapeau tient une carte dépliée, sur laquelle les têtes se penchent. Il y a des hommes et des femmes, des chiens, des fusils accrochés en bandoulière et des chapeaux à plumes. Flottent, emmêlées, des odeurs de cuir, de poudre, de bêtes mouillées. Bruno tape dans ses mains pour signaler le départ. La porte-fenêtre qui donne sur la cour est ouverte et l'assemblée se déplace vers l'extérieur. Les chiens aboient d'excitation et se poursuivent dans tous les sens, effrayant les chevaux scellés qui renâclent et qu'il faut calmer. Une carriole attelée à une jument grise attend sagement. Les femmes y montent, sauf Irène, qui flatte l'encolure d'un cheval pommelé avant de sauter en selle avec beaucoup de souplesse. Le dénommé Aimé, toujours aussi taciturne, est chargé de conduire l'attelage. Alexandrine s'installe avec les trois autres femmes et constate avec soulagement qu'elles aussi sont vêtues de pantalons. Assises côte à côte sur les planches dures, elles poussent des gloussements quand le convoi s'ébranle. On ne voit déjà plus les chiens qui sont partis en courant au coup de sifflet de l'homme au chapeau. Leur jappement frénétique indique la direction à suivre. La chasse peut démarrer. Mortifiée, elle s'est jetée sur un sac de carottes à peler. Occupée les mains pour ne plus penser. Sa mère le lui répétait souvent. « On n'attendra pas de toi que tu penses, que tu juges. Les maîtres ont leur lubie, parfois ils feront des choses que tu ne comprendras pas. Non pas parce que tu es trop bête, mais parce que ce sont des choses qui se font dans leur milieu, pas dans le nôtre. Ils sont différents. » Elle expliquait patiemment avec sa voix douce, un peu grave. Ils sont comme des enfants. Ils jouent avec des codes bien à eux. Mais comme les enfants, ils ont besoin de nous, car ils ne savent pas faire l'essentiel. Ils jouent toute la journée, à parler, à lire, à écrire. Ils pensent que c'est très important. Surtout, ne les détrompe pas, jamais. Mais toi, n'oublie pas. Tu sais faire bien mieux qu'eux. Tu sais faire les vraies choses de tes mains, pas eux. Allumer le feu, cuire la nourriture, laver leur linge, leur vaisselle, c'est nous tout ça. Sans nous, ils seraient perdus, nus, affamés. Nous veillons sur leur jeu, comme des parents sur des enfants. Ils voudraient croire qu'ils sont grands. Ne leur montre pas à quel point nous leur sommes nécessaires, ça les vexerait terriblement. Contente-toi de savourer ces moments où tu sais bien que c'est toi qui les nourris, qui les réchauffe, qui les habille. En pelant ses carottes, elle veut se sentir absolument indispensable. Elle y parvient presque. Son cœur s'apaise au rythme du travail. C'est alors que de la musique s'élève. Elle vient doucement, traverse le long couloir, se faufile jusqu'à la porte, pénètre dans la cuisine, tourne autour de la table. Elle s'insinue partout. Une mélodie si belle qu'elle en reste immobile, le couteau en l'air, le geste suspendu, pour ne pas en perdre une note, un souffle. La musique prend encore de l'ampleur, tournoie autour d'elle, brillante, l'enveloppe extraordinaire. Il n'y a pas de voix, seulement des instruments. Elle aimerait connaître leurs noms, leurs formes, pouvoir les imaginer en train de jouer pour elle, seulement pour elle. Tout s'arrête, brutalement.